Je m'entretiens maintenant ce midi avec le maire Daniel Côté. On va parler du programme d'aide de crédit pour promouvoir la construction de logements collectifs. Il y a une loi privée qui a été adoptée avant les fêtes. Maintenant, ça permet à la ville de mettre son programme ou de travailler à son programme. Il y a eu un avis de motion, ça veut dire qu'il y en a un qui s'en vient. Daniel Côté, bonjour.
Oui, bonjour Richard.
Oui, alors donc, vous avez, il y a eu un avis de motion qui a été déposé justement à la dernière séance du conseil par rapport à ce programme-là pour le logement locatif.
Effectivement. En fait, c'est une longue histoire courte. Là. Vous savez, il y a depuis quelques années, on est en pénurie de logements là, suite au boom économique qu'on connaît. Donc, on avait tenté d'avoir des promoteurs sans avoir à offrir d'incitatifs. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont levé. Il y a des petits projets qui ont levé, mais c'est loin d'être suffisant par rapport à la pénurie de logements qu'on a. Donc, on a convaincu le gouvernement et tous les partis d'opposition d'appuyer une loi privée qui nous donne des pouvoirs spéciaux. On le sait, une ville n'a pas le droit de soutenir la construction de logements privés sur son territoire. C'est carrément illégal, sauf si on nous donne un pouvoir spécial par une loi privée. Ce qu'on a obtenu en décembre dernier, là, avec l'appui de tous les partis, et le projet de loi était marrainé par notre députée Mégane Perry-Mélenchon aussi. Donc, on a franchi cette étape-là. Une fois qu'on avait la loi en main, là, on pouvait bâtir un programme et l'adopter par règlement municipal, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, le programme a été bâti à travers le temps des fêtes et en ce début d'année. Donc, on a bâti le programme. L'avis de motion déposé en séance du conseil municipal hier soir et le règlement final sera adopté à la première séance du mois de février. Fait que voilà pour ça. Qu'est-ce que ça va contenir maintenant? Crédit de taxe total, donc autant sur les services que sur le foncier pendant 5 ans. C'est pas un progressif, c'est pas un dégressif, c'est un total 5 ans. On veut être sûr d'avoir le plus fort incitatif possible, ce que nous permet la loi. Là, on va vraiment au maximum de ce que la loi nous permet favoriser justement la construction de logements, parce qu'on se rend compte que sans incitatifs, ça marche pas. Fait qu'allons-y avec les plus gros incitatifs possibles. C'est ce que ça va permettre. Le règlement est rétroactif au 1er janvier. Déjà, c'est prévu. Donc, s'il y a des promoteurs déjà qui ont intérêt à travailler, qui veulent travailler la construction de logements, venez rencontrer la direction de l'urbanisme, je vous dirais au plus vite, parce qu'on a besoin de logements, ça urge. C'est ce qui freine présentement le plus le développement du Grand Gaspé. Fait que, voilà. Fait que, les ventes sont ouvertes.
OK. Quand on parle de crédit sur 5 ans, c'est quoi? Ça peut y représenter quoi comme montant pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a un barème? Comment vous arrangez ça, là?
La seule chose, c'est qu'il y a un maximum par promoteur. Mais le maximum, il est énorme. La loi privée là, nous permet d'aller jusqu'à 500 000 $ par promoteur en crédit de taxe. 500 000 $ là, c'est un méchant paquet d'unités de logement. Fait que je serais bien surpris qu'on atteigne le maximum pour un promoteur, à moins d'avoir un méga projet qui débarque, là, ce qui est possible, mais c'est maximum 500 000. Dans la réalité des choses, là, ça va dépendre vraiment de la grosseur des projets. T'sais, un 2 logements, bien évidemment, le crédit va être beaucoup moins gros en chiffres, que ça pourrait être le cas pour un 48 ou un 60 logements. Là. Fait que bref, on est ouvert à tous les projets, mais c'est un maximum de 500 000 par promoteur, puis je vous dis, le maximum, je serais bien surpris qu'il soit atteint.
Comment ça se calcule? Par unité, avez-vous une idée? Donc, combien d'unités?
Ça dépend de la valeur de la construction.
OK.
Ça dépend vraiment de la valeur de la construction. Plus la construction vaut cher, donc plus la taxation est élevée. Hein. C'est en chiffre absolu, non pas en taux de taxe que c'est calculé. Fait qu'évidemment, plus la construction est grosse, plus ça va avoir de valeur foncière, plus elle aura de valeur foncière, okay. Plus les taxes sont élevées. Puis plus les taxes sont élevées, bien plus le crédit sera gros.
Alors, donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est du logement locatif. On parle de 2 logements et plus. Hein? À partir de 2 logements, on fait partie du groupe qui est potentiellement touché là, ou qui sera touché par ces crédits de taxes.
Exactement. Ça peut être de la nouvelle construction, comme ça peut être de l'agrandissement de construction existante. Ça peut même aller jusqu'à la conversion de maisons en unités de logement locatif. L'important, la finalité de tout ça, c'est de stimuler la construction de logements locatifs. L'unifamilial, par exemple, n'est pas là-dedans. Là. C'est vraiment du logement locatif.
Okay.
Peu importe que ce soit une conversion en agrandissement ou une nouvelle construction.
Parlons justement de famille puis de maison aussi, parce que dans le projet de loi ou dans cette loi-là que vous avez maintenant qui a été adoptée, il y a aussi pour stimuler l'achat de nouvelles maisons ou de maisons existantes dans des secteurs précis à Gaspé. Où on en est là-dessus?
Voilà, fait que ça, c'est le deuxième volet du projet de loi. Celui-là, on va passer l'avis de motion normalement la première séance du conseil de février. Je vous explique le pourquoi il y a un décalage entre les deux. C'est que pour le logement locatif, on s'est basé sur le programme qu'on avait déjà mis en place à l'époque, là, vers 2008-2009. Il y avait déjà un programme pour soutenir le logement locatif qui avait été bâti à partir d'une loi privée également. Donc, on avait déjà un modèle, on avait déjà quelque chose, puis on ne voulait pas retarder l'adoption de ce règlement-là, alors que pour l'autre volet, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Fait que le volet acquisition de maison, dans ce cas-là, faut bâtir le programme de bout en bout. Donc, c'est un petit peu plus long à bâtir. Et on ne voulait pas retarder celui du logement locatif pour attendre d'avoir fini d'écrire celui des maisons.
Ça va ressembler à quoi, les maisons?
Ça va ressembler à quoi? En fait, j'ai pas le brainstorm qu'on a fait, on parle de crédit de taxe aussi. Normalement, on devrait aller dans le foncier, dans le service également. Normalement, on a même de l'ouverture à assumer la taxe de bienvenue. La loi nous permet de l'assumer. Fait que si j'avais à parier aujourd'hui sur le contenu qu'on va dévoiler dans deux semaines,
oui.
Je vous dirais probablement crédit de taxe de bienvenue, puis du crédit de taxe foncière et de service pour les premières années. Est-ce que ce sera 3 ans? Est-ce que ce sera 4 ans, 5 ans? On va l'évaluer. Mais dans ce cas-là, on a le droit à maximum 10 000 $ par propriétaire ou par acheteur. C'est ce que la loi nous permet. Fait qu'on va regarder pour que ce soit réaliste et aussi équitable. Pour atteindre le fameux 10 000 $ maximum qu'on peut avoir, là, on va regarder comment
les secteurs,
on va le déployer précisément.
Et les secteurs touchés seront toujours les mêmes? On n'a pas changé d'idée?
Oui. La loi nous permet d'aller dans le secteur, le quartier numéro 1 au complet, donc de Lens-Avalot jusqu'à Petit-Cap inclus, et une partie du quartier numéro 3, mais en fait la quasi-totalité du quartier numéro 3, donc les villages de Lens-au-Griffon, Cap-des-Rosiers et Capozo. La seule section du quartier numéro 3 qui est exclue, c'est le secteur là, de Rosebridge-Penouille, qui est plus proche, qui est plus rapproché du centre-ville et où les valeurs foncières sont plus élevées. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on a voulu cibler, c'est vraiment les secteurs qui connaissent le plus fort vieillissement de population, les secteurs où les valeurs résidentielles sont les plus basses également, puis les secteurs qui avaient besoin d'un certain coup de barre là, au niveau socio-économique. Là. On veut revitaliser ces secteurs-là. Puis en même temps, j'en profite pour le dire, là, c'est une nuance très importante, on veut pas soutenir l'acquisition de maison n'importe quand, n'importe comment, à n'importe qui. Ce qu'on veut, c'est des résidents permanents qui s'installent là. Donc, il y aura une surveillance qui sera faite à savoir que ce n'est pas des gens qui s'installent là 2 mois l'été. C'est intéressant, des résidences de tourisme 2 mois l'été pour des retraités ou pour la clientèle touristique, ça peut être intéressant. Mais ce qu'on veut, c'est des gens qui vivent là à l'année, qui vont venir contribuer à redynamiser ces villages-là, qui sont malheureusement les plus dévitalisés du grand territoire de Gaspé. Mais si on veut donner un coup de barre, ça prend des gens qui restent là à l'année et c'est ce qu'on va venir soutenir.
Oui, on s'entend qu'en plus, ils sauvent, ils ont des crédits de taxes à l'année et des montants qu'on sauve de l'argent en taxes de bienvenue. C'est pas pour 2 mois par année. Alors, voilà.
Effectivement, on ne veut pas soutenir justement la présence de gens qui viennent passer une couple de mois de temps en temps quand ça leur tente. C'est pas ça qu'on veut. On veut des résidents permanents dans ce secteur-là.
Parlons un petit peu de l'aéroport de Gaspé. On a eu une nouvelle cette semaine avec vous dans ce dossier-là. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est de trouver une compagnie aérienne qui pourrait assumer du transport aérien dans la région pendant les travaux qui seront effectués cet été du côté de l'aéroport de Gaspé. Il y aura 3 semaines où on va asphalter. Donc, Air Canada ne peut pas atterrir. Et Air Canada, en partant, ne peut pas atterrir partout. Hein? On comprend, il y a un aspect de sécurité, hein, c'est ça?
Exact. En fait, c'est la sécurité aérienne, donc c'est tous les contrôles des bagages, etc., parce que Air Canada nous permet de se brancher sur le reste de la planète, donc on est soumis aux exigences de sécurité de l'ensemble de la planète, dans le fond. Donc, Air Canada ne peut pas s'installer dans un aéroport où il n'y a pas toutes les mesures de sécurité là, de l'AXTA. Donc, dans la grande région de l'Est du Québec, c'est pas compliqué, il y a Gaspé et il y a Mont-Joli qui ont ces équipements-là. Et on trouve que Mont-Joli est un peu loin pour desservir la clientèle de la pointe de la Gaspésie. Donc, Air Canada est un peu auto-discarté de cette manière-là. Donc, il y a 2 choses qu'il faut attacher dans les prochaines semaines. Il faut attacher un aéroport. Quel aéroport est disponible et serait prêt à nous servir d'aéroport de dégagement, si on veut, durant ces 3 semaines-là? L'idéal, c'est évidemment Rocher-Percé. Donc, on a des discussions à savoir si la piste sera disponible, parce que de leur côté aussi, on a des projets d'agrandissement et de modernisation. Fait que, est-ce que la piste est disponible durant la période où, nous, elle n'est pas disponible? Si elle est disponible et s'ils sont intéressés à prendre une masse de clientèle pendant un certain temps, l'affaire est ketchup. Si ça ne fonctionne pas, ben, on regardera du côté Saint-Anne-des-Monts ou Bonaventure si, de leur côté, la piste pourrait être disponible durant cette période-là. Première étape, aéroport. Deuxième étape, attacher un transporteur. Nous, on ne veut pas gérer du nolisé, puis on ne veut pas gérer de la billetterie. C'est trop compliqué, puis on n'a pas de ressources à mettre là-dessus à court terme. Donc, ça nous prend un transporteur qui est capable d'opérer une billetterie. c'est pas compliqué. Il y en a, à part Air Canada, là, il y en a quatre au Québec. Il y a Pascan, il y a Air Liaison, il y a Air Québec et Air Inuit. Fait que c'est un de ces quatre-là qui pourrait venir nous desservir. J'ai déjà été approché par Pascan. Qui ont manifesté un intérêt. Ils avaient entendu parler du dossier. Ils nous ont parlé de ça. Fait que ce serait une possibilité. Pascan modernise aussi sa flotte. Ils vont grossir leur flotte d'avions. Donc, on est habitué avec du 12 places, mais ils ont dans leur plan, dans leur carton d'acheter à très court terme là, des appareils de 35 passagers. Est-ce que ce sera Pascan? Est-ce que ce sera Air Liaison, Air Inuit ou Air Québec? On va trouver l'un de ces partenaires-là pour venir nous desservir via potentiellement l'aéroport du Rocher-Percé, sinon, bien, Bonaventure au Saint-Anne-des-Monts. C'est le plan est celui-là, mais présentement, je vous dis, on le travaille. D'ici quelques semaines, on va être capable de l'annoncer officiellement, puis on ne veut pas laisser ni la clientèle touristique, ni la clientèle d'affaires, ni les citoyens en plan au niveau du transport aérien. C'est pour ça qu'on travaille un plan B pour les trois semaines de fermeture.
Bon, est-ce que entre Gaspé et l'aéroport qui sera choisi, vous allez offrir un transport rendu là? Vous dites la ville veut s'impliquer pour pas que les gens se retrouvent avec un vide là, pendant trois semaines.
Effectivement, faut regarder le volume aussi. Là. Ouais. Est-ce qu'on va payer des autobus alors qu'il va y avoir une personne dans le bus? Je suis pas convaincu. Pour la clientèle, par exemple, les gens de Gaspé, admettons, je fais des suppositions, mettons qu'on prend l'aéroport du Rocher-Percé. Les gens de Gaspé qui vont prendre l'avion, ben au lieu de se rendre à l'aéroport de Gaspé en auto, ils vont sûrement se rendre à l'aéroport à Grande-Rivière avec leur auto. Fait que c'est pas un problème. C'est plus les gens qui atterrissent ici, qui normalement auraient pris un taxi vers le centre-ville ou auraient pris une auto de location. Ben, est-ce qu'on va être capable d'offrir un service d'auto de location pendant trois semaines là-bas? Peut-être. C'est ce qu'il faut attacher aussi. Ou bien, s'il y a nécessité vraiment d'avoir une navette, là, on va vérifier que nos partenaires d'industrie touristique, entre autres, s'il y a nécessité d'avoir une navette, ben, on s'organisera pour avoir une navette. Il y a la clientèle Saumon également. Je sais que du côté de la Société de gestion des rivières, ils ont déjà des plans aussi de leur côté pour que la clientèle puisse être transportée facilement. On va arrimer tout ça. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est de la fine logistique. C'est pas très compliqué à organiser. Le plus dur à organiser, c'est d'avoir un aéroport et un transporteur. Fait que ça, on prend les bouchées d'eau pour annoncer quelque chose d'ici la fin du mois, là, d'ici deux semaines.
Daniel Côté, maire de Gaspé, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à toi. À bientôt.